Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Washington, Ottawa et Londres affirment que le Boeing 737 qui s'est écrasé mercredi en Iran a été abattu par un missile iranien, probablement par erreur. 176 personnes étaient à bord, aucune n'a survécu. Nous y reviendrons dans un instant. Vous entendrez ensuite les craintes d'un humanitaire sur la probable fin d'une aide internationale dans le nord de la Syrie. La Russie a mis son veto. Taïwan et sa présidentielle, ce sera demain. Portrait de deux candidats dans ce journal que tout oppose. Pékin regarde cela d'un mauvais œil. Et puis nous étions hier au vœu de Gérard Larcher pour la nouvelle année. Le président LR du Sénat s'en est vivement pris à Emmanuel Macron et à sa politique en plein conflit sur la réforme des retraites. Deux jours après le crash d'un Boeing 737 ukrainien qui s'est écrasé près de Téhéran en Iran faisant 176 victimes, les chefs d'État américains, britanniques et canadiens, d'où sont originaires les victimes, ont donné hier leur version des faits. Selon leurs informations, cet avion a été abattu par un missile iranien. L'organisation de l'aviation civile iranienne avait indiqué hier que l'appareil avait fait demi-tour avec un problème. Les chefs d'État vont donc plus loin, Valentin Dunat.
Donald Trump est le premier à s'être exprimé. Le président américain fait part de ses doutes, de sa suspicion. « J'ai le sentiment, dit-il, que quelque chose de terrible s'est passé. » Boris Johnson, lui, est beaucoup plus précis, affirmant disposer d'un ensemble d'informations selon lesquelles cet avion a été abattu par un missile sol-air iranien. Le Premier ministre britannique s'est exprimé quelques minutes après Justin Trudeau, qui, lors d'une conférence de presse à Ottawa, a expliqué que le Canada avait des informations de sources multiples qui indiquent que cet avion a été abattu par un missile. Comme Boris Johnson, le Premier ministre canadien ajoute que ce n'était peut-être pas intentionnel. L'Iran a réagi en parlant de mise en scène douteuse et en appelant le Canada à partager ces informations. De son côté, le ministère des Affaires étrangères iranien a également invité Boeing à participer à l'enquête.
Et face à ces questions, il y a aussi la douleur des proches. À Toronto, au Canada, grosse communauté iranienne, des veillées ont eu lieu hier soir. Des centaines de personnes se sont réunies entre tristesse et colère en hommage aux victimes. Le maréchal Haftar en Libye rejette l'appel au cessez-le-feu lancé par Ankara et Moscou. L'homme fort de l'Est libyen poursuit ainsi ses opérations militaires contre les forces loyales au gouvernement d'Union nationale. Il compte prendre Tripoli, la capitale de la Libye. Le ballet diplomatique s'était accéléré après l'annonce par la Turquie la semaine dernière de l'envoi de troupes en Libye, ce qui a suscité des craintes d'une nouvelle Syrie. La Syrie, justement, où une aide humanitaire transfrontalière pourrait prendre fin aujourd'hui, faute de consensus à l'ONU. De nombreuses ONG alertent aujourd'hui sur les conséquences que provoquerait la fermeture de ce couloir humanitaire dans le nord de la Syrie. Les derniers combats autour d'Idlib ont provoqué la fuite vers la frontière turque de 250 000 personnes. Elles ont besoin d'aide et le veto russe au Conseil de sécurité de l'ONU est sur le point d'aggraver leur situation. Ziad Alissa, médecin et président de l'ONG UOSSM, l'Union des organisations de secours et de soins médicaux, considère que la Russie utilise ce droit de veto comme une arme de guerre. Écoutez.
Il n'y a pas de différence entre bombarder un village et interdire l'aide humanitaire de rentrer dans son village-là. C'est pour ça que c'est très dangereux de ne pas renouveler ces couloirs humanitaires dans cette zone. L'aide humanitaire, là maintenant, c'est vital. Elle est vitale. Elle est vitale parce que là, il y a vraiment risque de famine dans cette zone-là. Et on sait que ces gens qui sont dans le nord de la Syrie, sur la frontière avec la Turquie, ils ne peuvent pas retourner vers les zones contrôlées par le régime. Donc je pense qu'il y a un risque qu'ils vont essayer de traverser les frontières pour rentrer en Turquie, pour au moins trouver quoi manger et trouver quand même un abri.
Des propos recueillis par Olivier Poujade. À quelques heures d'élections importantes, la Chine et les Occidentaux ont les yeux rivés vers Taïwan, petite île démocratique qui résiste au Parti communiste chinois. Une présidentielle et des législatives stratégiques auront lieu demain à Taïwan. 19 millions d'électeurs vont choisir entre la réélection de Tsai Ing-wen, présidente démocrate hostile à Pékin, et le candidat Ruan Kuo-yu, favorable à un rapprochement avec la Chine. La première est donnée gagnante, ce qui serait un revers pour Pékin. Présentation des enjeux avec notre envoyé spécial à Taïwan, Dominique André.
Une femme, un homme, deux visions de la relation avec le grand voisin chinois.
Tout oppose Tsai Ing-wen et Ran Kuo-yu dans leur choix d'avenir. La petite île va-t-elle donner une nouvelle gifle à Pékin après le récent raz-de-marée démocratique aux élections locales de Hong Kong à quelques centaines de kilomètres? C'est fort probable. Cette jeune femme de 24 ans, qui votera pour la candidate pro-démocratie, mesure la gravité de la situation.
Ce sont des élections très importantes qui vont avoir lieu à Taïwan parce qu'elles vont déterminer vers quel pays on va se rapprocher. Moi, je ne suis pas favorable à un rapprochement avec la Chine. Je suis très inquiète. Il faut faire le bon choix. Ce qui me fait peur, ce n'est pas la Chine, c'est le Parti communiste. Je n'approuve pas ce choix politique quand on voit ce qui se passe au Xinjiang, à Hong Kong ou avec les routes de la soie.
Cet employé d'une usine d'électronique vote, lui, pour le candidat du Kuomintang qui affirme que les mauvaises relations entre Taïwan et la Chine pèse sur l'économie locale.
Taïwan a changé ces quatre dernières années, l'économie a vraiment baissé et Taïwan, en plus, s'est vraiment isolé à cause de la politique du gouvernement. Il faut que Taïwan s'ouvre.
Pour la plupart des Taïwanais, défendre le joyau démocratique de la région est devenu une urgence.
Dominique André à Taïwan pour France Culture. En France, l'actualité est encore dominée aujourd'hui par la réforme des retraites. Après une forte mobilisation hier, mais un peu moindre que lors des précédentes manifestations, il y a eu 452 000 personnes dans les rues un peu partout en France selon le ministère de l'Intérieur. 1 700 000 répond la CGT. Une mobilisation qui va se poursuivre dès demain, d'autant que l'âge pivot est bel et bien inscrit dans le texte du gouvernement. Les partenaires sociaux auront toutefois jusqu'en septembre 2021 pour trouver une autre solution, c'est ce que dit le texte. Une revalorisation pour les enseignants-chercheurs est aussi promise dans ce projet de loi. Aujourd'hui, des réunions vont s'enchaîner à Matignon autour du Premier ministre et des partenaires sociaux sur la question du financement de la réforme. Et dans ce contexte de contestation, un homme tire à boulet rouge sur l'exécutif. Le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, a présenté ses vœux à la presse hier. Il ne s'est pas privé de dire ce qu'il pensait de la politique du président de la République, Rosalie Lafarge.
À quelques semaines maintenant des municipales, Gérard Larcher n'y va pas par quatre chemins.
Nous étions à l'aube d'un nouveau monde et le jour ne s'est pas encore levé.
Tout ou presque y passe.
Que reste-t-il du grand débat? Que reste-t-il du projet de révision constitutionnelle? Qu'en est-il du discours sur la laïcité?
Mais de tous les reproches qu'il fait à l'exécutif, c'est évidemment la réforme des retraites qui décroche la palme.
Il y a une faute originelle. En refusant d'aborder la question de l'âge légal de départ, alors que c'est une des clés de la réforme. Au fond, le gouvernement, et sans doute le président, a créé la défiance de l'opinion en introduisant un âge pivot qui n'est en fait qu'un habillage du recul de l'âge légal.
Pire encore, pour le président du Sénat, le pouvoir continue de vendre une réforme à ses yeux vidée de toute substance.
Il a tellement accordé aux régimes spéciaux que seul le nom a disparu.
Mais ce qui l'irrite au plus haut point, Gérard Larcher, c'est cette volonté du gouvernement de soumettre la réforme à l'examen du Parlement dès la mi-février.
Comment nous demande-t-on de voter avant les résultats d'une conférence de financement? On ne peut pas s'engager sans savoir combien, au fond, cela va coûter, mais aussi dans ses conséquences, dans ses coûts et ses bénéfices, mais aussi dans ses conséquences sociales. Ceci ne renvoie pas au calende grec, la réforme, mais tout simplement ou calende de la raison.
Gérard Larcher demande donc au gouvernement d'attendre les résultats de cette conférence de financement et d'une étude d'impact avant de saisir le Parlement.
Il faut qu'on soit sérieux un moment.
C'était le président du Sénat au micro de Rosalie Lafarge. Serait-ce le grand oral climatique d'Emmanuel Macron? En tout cas, le chef de l'État doit rencontrer pour la première fois ce soir les 150 Français tirés au sort pour la Convention citoyenne sur le climat. Ces citoyens travaillent depuis l'année dernière sur des solutions contre le réchauffement de notre planète. Ils pourront poser des questions directement au président ce soir. Le temps aujourd'hui en France métropolitaine avec un ciel encore bien chargé, avec des averses du sud-ouest jusqu'aux régions de l'est, avec aussi le retour de la neige en montagne, notamment sur les Pyrénées. Ailleurs, les éclaircies devraient se faire une place. Il fait ce matin 7 degrés à Rennes et à Lyon, comptez 8 degrés à Strasbourg, à Lille, à Paris, 9 degrés à Bordeaux, 11 degrés sous la Corse où il pleut aujourd'hui et puis 12 degrés ce matin à Perpignan.